RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
C'est l'Intégral Tour, on est ensemble jusqu'à 21h. On rejoint tout de suite Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir.
Après cette première étape dans les Alpes, il y a eu beaucoup d'actions là quand même.
Ah oui, on s'attendait à un spectacle hein, sur les quatre dernières grandes étapes alpestres. Eh bien aujourd'hui, il y a eu tout. Il y a eu le côté, on va dire, espoir cocorico avec Thibaut Pinot. Derrière, au niveau des leaders, il y a eu aussi une vraie explication avec quand même une victime de taille au niveau du classement général, bien sûr, c'est Contador. En fait, il y a eu deux chutes qui ont été très importantes dans cette étape. La chute de Thibaut Pinot dans la descente d'Alos qui vraisemblablement le prive de la victoire ici à Praloux. Et puis également, et toujours dans cette descente d'Alos, la chute sans gravité de Contador, mais qui va lâcher 2 minutes de plus au classement général, ce qui vraisemblablement va le priver d'une possible place sur le podium de ce Tour de France.
Alors on va revenir sur Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, c'est vrai qu'il a fait une très belle attaque dans la montée, mais bon, c'est vrai que la descente, c'est toujours pas son truc. Il est tombé, ça arrive. Il est tombé parce qu'il avait peur ou il a eu peur après la chute parce qu'il était tombé?
Non, il fait une belle descente. C'est pas naturellement un descendeur, donc il va pas attaquer les courbes 5 à l'heure plus vite que tout le monde, mais il est bien en position, il est bien sur les trajectoires. Il a une petite réserve de sécurité. Il a perdu à ce moment-là qu'une dizaine de secondes, même pas sur Geschke, l'homme de tête. Et il est bien. Et puis d'un seul coup, il y a ce virage où il est là aussi bien en position. Que s'est-il passé pour que la roue arrière décroche? Bon, on n'a pas d'explication très précise sur les images. Il va décrocher au moment où il reprend de la motricité, c'est-à-dire qu'il recommence à pédaler. Est-ce que la pédale effleure plus ou moins le bitume, ce qui le fait délester de l'arrière et donc le projette à terre sans conséquence physique? Sauf que derrière, eh bien, il va être un peu plus crispé, ce qui est tout à fait logique juste
après.
Oui,
c'est ça, dans la tête. Après, c'est quand même compliqué de repartir aussi vite.
Oui, alors certains qui sont des vrais descendeurs et où l'adrénaline vient par saut d'élite, très rapidement ils vont se rejeter dedans, mais c'est pas le cas de coureurs qui ont déjà quelques appréhensions. Et puis bon, il avait un petit problème de guidon qui ne l'a sans doute pas rassuré.
Est-ce que ça s'apprend la confiance en descente?
Si on est très mauvais, on peut devenir moins mauvais. Si on est bon, on peut devenir très bon. Mais de quelqu'un qui a des appréhensions, des peurs, on peut s'améliorer, on peut retrouver une certaine confiance, mais on ne sera jamais le meilleur descendeur du peloton. Mais Thibaut a fait quand même depuis, rappelez-vous, il y a 2 ans, j'ai envie de dire, il prenait les virages plus vite en montant qu'en descendant. Bon, c'est une image, bien sûr.
Hein. Oui.
C'est une
J'espère,
image.
En tout cas.
Oui. Par rapport à il y a 2 ans, les progrès sont immenses. Disons qu'aujourd'hui, il est un honnête descendeur, on va dire dans le ventre mou des descendeurs, quoi. Mais il faut pas qu'il ait une petite appréhension. Il faut pas qu'il ait ce qui lui est arrivé aujourd'hui et qui lui coûte, je le répète, vraisemblablement cette victoire d'étape.
Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, particulièrement?
Oui, il a travaillé. Il a même fait un peu de pilotage automobile. Il a fait un peu de pilotage sur glace, ce qui aide à sentir les trajectoires, ce qui permet également de sentir un petit peu la glisse. Ça peut également apporter, parce que le gros problème dans les descentes, c'est ce qu'on peut appeler l'espace-temps, c'est-à-dire la vitesse par rapport à l'obstacle qui est le virage sur lequel il va falloir maîtriser sa zone de freinage, et surtout ne pas avoir peur, parce que si on maîtrise bien sa zone de freinage, on va pouvoir également asseoir sa trajectoire derrière, donc sa venue au point de corde et sa reprise et son relâchement après pour aller chercher l'extérieur. Si on est bien comme cela, en principe on passe et on lâche les freins relativement vite une fois qu'on est rentré dans la courbe. à partir du moment où vous avez une petite frayeur, ben les freins, vous les lâchez un petit peu moins. Comme vous les lâchez moins, souvent, vous provoquez un système qu'on connaît bien, c'est-à-dire de survirage. Et puis surtout, vous sortez moins vite du virage. Comme vous sortez moins vite, ça veut dire que toute la ligne droite derrière va être impliqué dans ce manque de vitesse, et les secondes vous les perdez progressivement.
Antoine au 32-16 veut nous parler de la course de Thibaut Pinot. Bonsoir Antoine.
Bonsoir
Antoine.
Alors cette course de Thibaut Pinot, qu'en as-tu pensé Antoine?
Personnellement j'ai trouvé plutôt pas mal la course. Il a fait une belle montée dans le col d'Allo. Par contre justement comme disait Cyril, la descente était un peu moyen à cause de sa chute, qui a fait perdre confiance et ce qui a coûté certainement la victoire d'étape. S'il avait fait une bonne descente, il aurait eu un retard minimum dans le Praloup et après il aurait pu rattraper Simon Geschke et remporter la victoire.
Non, mais je pense également que sans cela, il aurait terminé. Il aurait peut-être été rejoint d'ailleurs par Talansky, mais seulement par Talansky, et à deux, effectivement, l'écart ce serait beaucoup réduit. Et puis surtout, Thibaut n'aurait pas taqué le pied du col aussi vite, aussi nerveusement, avec autant d'impulsion. Il s'est quand même mis un petit peu dans le rouge au pied. Et là, ça pardonne pas. Au bout d'un kilomètre et demi, il y a un moment, faut refaire les niveaux. Mais il n'avait pas le choix. Alors que, à l'inverse, Geschke a attaqué le pied du col avec un matelas relativement important, plus d'une 30, même pratiquement une 45, une 50, une 50 même sur Thibaut, ça lui donne un matelas relativement important, ce qui fait qu'il peut attaquer le pied en étant en dessous de ses seuils, c'est-à-dire en dessous de son max, et progressivement, en fonction des écarts qu'il peut recevoir, il va accélérer progressivement, et à 4 km de l'arrivée, 3 km de l'arrivée, là il peut tout jeter, il sait que ça rentrera plus. Cette gestion pratiquement obligatoire a condamné également Thibaut, mais tout ça n'était que des conséquences de ce qui s'était passé avant.
Bon, et puis ce soir, Chris Froome a toujours le maillot jaune sur les épaules.
Hein. J'ai
l'impression, hein, j'ai cru voir ça. Antoine, tu voulais également parler de ça, et notamment du fait qu'il n'ait pas été attaqué. Il était un petit peu attaqué quand même.
Si.
Oui, justement, mais il a été attaqué à 60 km de l'arrivée, à peu près par Alberto Contador, entre autres. Mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, dans la montée de Praloup, Nairo Quintana est un des seuls à attaquer, mais seulement à 2 km. S'il avait attaqué un petit peu plus loin, peut-être qu'il aurait pu creuser un peu d'écart sur les poursuivants comme Nibali ou Valverde qui n'ont pas suivi. Bon, je pense que Froome aurait quand même suivi Quintana sans surprise, mais je pense que Quintana aurait pu accroître son avance sur Nibali ou Valverde encore, attaquant d'un petit peu plus loin. Il semblait beaucoup plus fort que les autres, Quintana.
Oui, on peut toujours se poser la question. Il y a eu effectivement une attaque de Contador dans le col précédent, le col d'Alos, mais il n'y a pas eu de contre derrière. On est loin de l'arrivée. Et Contador ne pouvait pas aller très loin parce que où il était rejoint, il l'a été d'ailleurs par Valverde. Mais il aurait fallu que, je sais pas comment vous dire, mais il faut que le maillot jaune soit en difficulté pour l'attaquer. Tant qu'il est comme il est en ce moment, quand vous attaquez, vous risquez surtout une chose, c'est d'exploser. Parce que quand vous attaquez, vous produisez un effort qui est au-dessus de votre max. Ensuite, il faut vous restabiliser là où se situe votre seuil. Mais vous allez avoir, de toute façon, ce qu'on va appeler une petite dette d'oxygène qu'il va falloir assumer. Or, Froome ne répond pas aux attaques. Tant qu'il répondra pas aux attaques et que progressivement il va revenir vous chercher, votre attaque vous met en difficulté par rapport à Froome.
Mais lui, Froome, il a aucune raison de changer et de répondre aux attaques. Il va continuer sa tactique, là, a priori.
Mais oui, parce qu'il a un matelas de 3 minutes 10 sur Quintana. Donc, d'ailleurs, si vous remarquez, dans la dernière ascension, quand Quintana a attaqué la première fois, il l'a laissé prendre une vingtaine de mètres, et progressivement, il a enclenché, sans jamais lui aller au-dessus, alors que sur l'accélération, Quintana est obligé d'aller au-dessus. Donc il va le chercher, mais la deuxième attaque de Quintana, là il n'a rien laissé prendre, on était à moins de 400 mètres ou 500 mètres de l'arrivée, là il ne l'a pas laissé prendre 2,50 mètres, il est tout de suite, il y est allé, et il l'a maîtrisé.
Et alors,
donc pour l'instant, il n'est pas attaquable. Son niveau de performance actuel, seul Quintana est à peu près à son niveau. Les autres sont tous en dessous. Donc, toute attaque met en danger celui qui attaque.
Justement, Cyril, si les favoris, on va dire, genre Valverde, Nibali, Quintana, Contador, attaquent dans la dernière montée chacun leur tour.
Au bout d'un moment... Non. Alors, là, je te mets à l'aise tout de suite. Ils attaquent chacun leur tour et Froome finit tout seul.
Ah bah voilà, comme ça c'est clair.
Ben oui. Regardez, vous avez Valverde qui a roulé, qui a quand même attaqué dans la descente, qui ont roulé, les équipiers de Nibali qui ont roulé. Quand il y a eu l'accélération de Quintana, Valverde et Nibali ont sauté. Et ils sont d'ailleurs pas revenus. Ils sont donc restés qu'à deux. Et là vous avez la photo exacte des valeurs. C'est-à-dire que si vous continuez à trop le chauffer, comme il gère en défense, eh ben, il va vous mettre minable sur le final.
Bon, du coup,
Dans ce cas, il a d'ores et déjà gagné le Tour de France, alors Froome.
Oui.
Si on vous suit.
Oui. Il faut qu'il ait un mauvais jour. Tant qu'il sera à ce niveau-là, il n'est pas attaquable.
Antoine, à 19h, Cyril sera à nouveau là avec Christophe Cessieux et toute l'équipe et il va t'en dire encore plus sur la future victoire de Chris Froome. Hein, si j'ai bien compris, ça va être comme ça que ça se passera. Merci beaucoup d'avoir appelé le 32-16. Cyril, à tout à l'heure.